BFM Business, midi, l'heure H. Stéphane Pedrazzi.
Le gouvernement va débloquer 20 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments, une opportunité pour le secteur de la construction qui a été lourdement affecté par la crise sanitaire. On va en parler avec Jean-Christophe Répon, président de la CAPEB, la Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. Avant d'évoquer ce plan de relance du gouvernement et des mesures spécifiques pour votre secteur, j'aimerais qu'on fasse un état des lieux. Vous avez publié aujourd'hui votre bilan trimestriel. L'activité dans l'artisanat du bâtiment a plongé de 24% après déjà une première baisse de 12% au premier trimestre. C'est un choc vraiment inédit.
C'est un choc inédit, pour nous c'est un choc historique et d'évidence, malgré la volonté des artisans de répondre à la commande de nos clients, nous subissons de plein fouet, comme les autres secteurs, la crise économique qui suit la crise sanitaire. Donc nous évaluons dans l'année une baisse à moins 14% et des hypothèses de perte d'emploi de 20 à 30 000 emplois. Donc pour nous, les annonces du ministre, du Premier ministre et aussi également de Madame Wargon sont plutôt positives. Maintenant, il faut y regarder plus en détail. Est-ce que les 20 milliards d'euros de Monsieur Castex se cumulent avec les 5 milliards d'euros de Madame Wargon? Nous allons regarder plus en détail les effets d'annonce.
Alors, on va d'abord, avant de commenter ces chiffres du gouvernement, parler des perspectives, puisque pour vous, il y a à la fois l'incertitude économique qui pèse sur l'activité dans le secteur du bâtiment, et puis, bien sûr, le risque sanitaire. Ça aussi, c'est un problème pour les chantiers.
Oui, tout à fait. Nous avons prise en responsabilité, nous, la CAPEB, avec nos artisans, pris la mesure de la crise et donc avons créé un guide de santé-sécurité pour pouvoir reprendre le travail. Nous avons assuré malgré tout les travaux de première nécessité, d'urgence. Nous n'avons pas laissé tomber nos clients, mais il nous reste en responsabilité maintenant à prendre aussi la mesure pour éviter une deuxième crise. Ça veut dire que les gestes sanitaires sont toujours présents, il y a toujours de la coactivité et donc de la difficulté à travailler. Ça veut dire que pour nous, artisans du bâtiment, nous avons encore une perte de rentabilité et nos marges qui s'amenuisent. Donc, nous devons être responsables puisque nous sommes citoyens et nous voulons pas qu'il y ait une deuxième crise, une deuxième pandémie, mais nous devons être vraiment en vigilance pour ne pas accentuer les prémices de ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire une réminiscence du Covid. Donc, nous sommes très vigilants et responsables.
C'est parfois difficile de respecter les gestes barrières sur les chantiers ou dans les véhicules qui transportent des ouvriers.
C'est très difficile de pouvoir travailler. Alors, quand on est en site ou non occupé, c'est bien plus aisé. Mais quand on est en coactivité, il faut toujours désinfecter, il faut avoir capacité à travailler en alternance. Ça veut dire que nos temps de travail sont plus longs. Et sans parler de la difficulté qu'on a des fois dans l'approvisionnement. On a vu que nos artisans avaient pour plus de 31% des difficultés d'approvisionnement. Ça veut dire que nos temps de chantier sont plus longs, nos temps de travail sont plus longs. Et ça veut dire que nous facturons bien plus tard et nous finissons les chantiers plus tard, ce qui va nous amener définitivement à avoir des problèmes de trésorerie et qui va nous donner une grande vigilance sur la deuxième partie, sur le deuxième semestre de 2020.
Le secteur du bâtiment représente environ 10% du PIB en France, mais c'est un secteur qui reste extrêmement fragile malgré son importance, puisqu'aux côtés des grands groupes du BTP, c'est un secteur qui est essentiellement constitué de TPE et de nombreux artisans. Et c'est pour ça que votre parole est intéressante.
Et je suis heureux d'aujourd'hui de rappeler que le gouvernement a pris conscience de cette économie de proximité, de la TPE et de l'artisanat, puisqu'il a engagé des aides en direction de ces entreprises. Bien évidemment, nous sommes dans un marché diffus, mais les 550 000 à peu près entreprises qui représentent l'artisanat du bâtiment sont essentielles dans l'économie. Donc c'est vrai que l'artisan est plus difficile à toucher, est plus difficile à persuader, mais il est opérationnel sur l'ensemble du territoire. Et on a bien vu que lors de cette crise, le territoire, le milieu rural était essentiel et la proximité est essentielle. Donc la TPE, je l'espère et je le souhaite de mes voeux, sera incontournable dans l'avenir.
Le plan de relance du gouvernement, on l'a dit, comprend une enveloppe de 20 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments. Selon vous, c'est une réponse adaptée ou est-ce qu'elle cible uniquement une partie de votre activité?
L'analyse rapide qu'on en fait, elle me paraît pas être totalement adaptée. Elle cible une partie de l'activité. Nous, ce qui nous paraît essentiel, c'est de libérer l'activité. Et vous avez bien vu que dès qu'il y a des effets d'annonce sur des effets d'aubaine, nous avons des commerciaux qui s'emparent de ces effets-là et nuisent à l'image même de l'artisanat du bâtiment. Donc, on va être très vigilants et nous allons rencontrer très rapidement les ministres pour leur proposer des pistes d'action concrètes, puisque nous, ce qui nous importe dans le prochain semestre, c'est de l'activité et encore de l'activité.
Quand vous parlez des commerciaux qui s'emparent de cet effet d'aubaine, ça veut dire que les artisans en bout de chaîne ne voient pas forcément l'argent qui est débloqué par le gouvernement ?
Pour partie, les artisans ne voient pas cet argent-là. Et vous savez, les commerciaux des artisans, ce sont le travail bien fait. Donc ça veut dire que nous n'avons pas une armada d'artisans, de commerciaux qui viennent démarcher. Vous avez bien vu que les éco-délinquants ont d'abord fait le photovoltaïque, après ils ont fait l'isolation des combles, maintenant ils font l'isolation extérieure. Donc cet argent-là, il faut qu'il soit bien engagé. C'est de l'argent public, c'est de l'argent de nos impôts, et il doit revenir à l'activité. Nous voulons que ça soit un levier supplémentaire à amener les ménages à continuer à rénover le bâtiment. Nous pouvons être que d'accord pour la rénovation énergétique et améliorer nos bâtiments, mais il faut que ça profite aussi aux artisans de proximité.
Vous pensez que le gouvernement doit accentuer les contrôles justement sur ce point ?
Oh oui, bien évidemment. Le gouvernement doit accentuer les contrôles auprès de ces éco-délinquants. Les certificateurs qui nous donnent la capacité à être RGE doivent aussi multiplier les contrôles. On a quand même une facilité pour les retrouver, ces éco-délinquants, quand même, parce que nous, artisans, nous nous formons, nous continuons tout au long de la vie à nous former pour accéder à ces marchés réglementés, et nous pâtissons de cette image, et l'artisan qui se forme et qui accède à ce marché difficilement et qui en plus est montré du doigt comme un éco-délinquant, ça paraît un peu vraiment difficile à défendre, et nous avons de plus en plus d'artisans qui renient ces marchés-là à cause de ça. Donc qu'on propose aussi une simplification de ces dossiers-là ou une aide extérieure pour gérer ces dossiers administratifs qui sont d'une complexité rare. Quelles que soient les aides, qu'elles soient dans MaPrimeRénov' ou qu'elles aillent sur les certificats d'énergie, donc les obligés, c'est trop complexe pour un artisan seul ou avec peu de salariés. Donc il faudra peut-être qu'on nous aide à gérer cette offre trop complexe.
Mmh. Des logements plus respectueux de l'environnement, c'est le souhait du gouvernement, mais on le sait aussi, ce type de construction coûte généralement plus cher. Est-ce que vous pensez que dans un contexte de crise économique, avec la remontée du chômage, les Français sont prêts à payer davantage pour la construction de logements ? Et là, je pense aux bâtiments neufs.
D'évidence, le Français est quand même foncièrement, j'allais dire, basé sur le foncier. Donc ça veut dire que ça restera une priorité. On a bien vu que dans cette période de crise, les ménages ont thésaurisé. Donc ça veut dire qu'il faudra bien investir. La qualité de vie devient un élément essentiel dans l'avenir. On a parlé de circuits courts, on a parlé de qualité de vie. Donc il faudra bien que ces bâtiments donnent une qualité de vie supérieure. Ça veut dire qu'il faut rénover intelligemment l'ensemble des dossiers de l'immobilier. Il faut se raisonner, il faut, je pense, densifier les parties qui sont déjà construites, donc rénover plus que construire, mais ça devient un élément essentiel, me semble-t-il, pour la société.
Merci beaucoup Jean-Christophe Répon, président de la CAPEB, la Confédération Artisanale des Petites Entreprises du Bâtiment. Merci pour ces commentaires donc concernant le plan du gouvernement, 20 milliards d'euros qui vont être débloqués pour la rénovation thermique des bâtiments. On marque une pause, dans un instant on va parler automobile avec le président de BMW en France.
BFM Business, midi, l'heure H. Stéphane Pedrazzi.
Le rebond du marché automobile européen après la période de confinement. On va en parler avec Vincent Salimon, président de BMW France. Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Merci d'être avec nous. La France est en Europe le marché qui se rétablit le plus rapidement. Surprise pour les chiffres de juin, avec une progression des immatriculations de 1,2% en France. C'est le seul pays européen qui affiche une progression, grâce notamment aux mesures d'aide gouvernementale. Vous pensez que d'autres pays en Europe devraient copier ce genre de mesures ?
Je pense que les mesures du gouvernement ont été très bonnes parce que d'abord elles ciblaient une approche incitative. Vraiment, c'était l'opportunité d'inciter les acheteurs à revenir en concession. Et puis, elle avait une fonction, une approche écologique qui était très importante, de mobilité durable, d'inciter les acheteurs à acheter une voiture électrifiée. Donc oui, les décisions du gouvernement ont été très bonnes. En plus, il y a un élément supplémentaire, c'est que le gouvernement a été très vite. Les décisions ont été prises et mises en place dès début juin. Donc, d'autres pays peuvent effectivement imiter ce qui a été fait en France.
Si on compare justement avec d'autres pays européens, recul de 36,7% en Espagne, 32% en Allemagne, 23% en Italie. La différence, c'est uniquement les mesures gouvernementales ?
Alors, c'est essentiellement les mesures gouvernementales, parce que globalement, les habitudes d'achat sont absolument les mêmes. Et encore une fois, la réactivité du gouvernement qui a souhaité, et on a parlé, et on va en reparler tout à l'heure certainement avec les décisions et les annonces du Premier ministre, qui souhaite investir largement et rapidement dans le plan économique, parce que il est indispensable de relancer cette économie qui a besoin d'un soutien très fort.
Le fait que BMW enregistre en France un rebond nettement supérieur au marché, pour la marque BMW, c'est une progression de 42,5% au mois de juin. Ça veut dire qu'il y a des segments de véhicules qui rebondissent mieux que d'autres, ou est-ce que c'est plutôt le positionnement haut de gamme ?
Alors, c'est un peu le positionnement premium, c'est clair. Le deuxième élément, c'est qu'on a travaillé avec l'ensemble du réseau en France et l'ensemble des équipes BMW Group France pour faire en sorte d'être prêt le 11 mai. Ça veut dire que les concessions n'ont jamais fermé. Il y a eu des astreintes en permanence. Ça veut dire que l'activité globale a recommencé dès mi-avril à l'après-vente pour pouvoir nettoyer en fait les ateliers. Les vendeurs sont revenus en concession le 4 mai, avant les clients, pour préparer cette relance. Et le deuxième élément qui est très important dans la force de BMW, c'est la largeur de la gamme, c'est la stratégie du power of choice, du pouvoir de choisir, qui fait que chez BMW, lorsque vous voulez une voiture, vous choisissez la motorisation en fonction de votre utilisation. On ne vous force pas, c'est incitatif, c'est en fonction de vos besoins, et vous achetez du thermique, de l'essence ou de l'hybride, de l'électrique ou de l'hybride rechargeable.
On va parler de l'électrique dans un instant. D'abord, un mot sur le rattrapage. Lorsque la consommation recule, il y a généralement un effet de rattrapage derrière. On sait que ça fonctionne avec les biens d'équipement, ça marche avec l'automobile. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que le trou d'air du premier semestre pourra être partiellement compensé ? L'Association des constructeurs européens d'automobiles nous parle d'une contraction de 25% cette année en Europe, après un recul de 38% au premier semestre. Donc, ça sera un rattrapage partiel.
Oui, tout à fait. Alors, en France, on parlait d'une baisse de marché de 20%. C'est globalement les organisations professionnelles. Moi, ce que j'ai annoncé à mon réseau pendant le confinement, c'est qu'à l'après-vente, dans toute l'activité service qui est importante pour les réseaux de concession, c'est 50% de la rentabilité d'une concession. À l'après-vente, on pourra rattraper la totalité du retard de prix, parce que globalement, les voitures ont quand même roulé, les gens ont travaillé, notamment les professions importantes, indispensables, ont travaillé pendant le confinement. Et maintenant, au niveau de l'activité véhicule neuf et véhicule d'occasion, le rattrapage est très fort. Je pense que c'est très structurel aussi, parce que globalement, il y a des achats qui n'ont pas été faits pendant le confinement, qui sont en train de tomber maintenant et qui vont revenir sur le deuxième semestre. Il y a aussi un retour à la mobilité individuelle. On voit des clients qui reviennent en concession alors qu'ils n'avaient plus de voiture, parce qu'ils souhaitent favoriser cette mobilité individuelle qui est plus sûre, mais ils veulent aussi une mobilité durable. Et simplement pour répondre à votre question, en termes de prise de commande, donc ce sont les immatriculations de fin d'année, chez BMW comme chez Mini à peu près, dans le groupe BMW, on est à moins 10% en cumul depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une meilleure situation que les moins 20% qu'on pouvait envisager pendant le confinement.
Ça veut dire que sur l'ensemble de l'année, vous ferez mieux que le marché français ?
Alors, ça veut dire que déjà à fin juin, on a fait 10 points de mieux que le marché français. On a gagné 2 points de part de segment sur le segment des premiums. Donc ça, c'est très favorable. Et oui, on fera mieux que le marché français. Et l'ensemble des équipes du BMW Group France et du réseau s'attellent à travailler dans cette direction.
Comment se porte le marché des véhicules d'entreprise ? Est-ce qu'avec la crise économique, les difficultés financières, parfois, certaines entreprises vont être tentées d'annuler ou de reporter les programmes de renouvellement de leur flotte ?
Alors, le marché des entreprises a été un petit peu atypique, parce que les grands comptes, les grosses entreprises ont continué à prendre des commandes, et notamment les loueurs longue durée, pendant la période de confinement, alors que l'activité véhicule neuf était plutôt arrêtée. Et maintenant, ils ont plutôt tendance à repousser les achats. En revanche, les petites entreprises ont les mêmes réactions que le marché des particuliers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils font partie de cette dynamique très positive du marché automobile.
Les préoccupations environnementales ont été renforcées par la crise sanitaire. On le voit notamment à travers l'explosion de la demande pour les véhicules électriques. En valeur absolue, c'est encore minoritaire, évidemment, par rapport aux véhicules thermiques, mais les pourcentages de progression sont impressionnants.
Alors, globalement, vous savez, la stratégie électrifiée, donc ce sont les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, exactement, date de 2007 pour BMW. Donc, ça fait 13 ans qu'on travaille sur le sujet. Ça fait 7 ans qu'on a lancé notre première voiture électrique, la BMW i3. Et aujourd'hui, on voit bien que cette avance technologique paye, puisque aujourd'hui, 15% de nos ventes sont des véhicules électrifiés. Et je peux vous assurer qu'en fin d'année, ce sera un mix encore plus important. Et en prise de commande, on est en train de doubler notre activité en véhicules électrifiés. C'est lié à cette volonté de mobilité durable. Très clairement, c'est lié à la largeur de la gamme BMW et Mini, puisque nous avons lancé notre Mini électrique, une parfaite électrique urbaine juste avant le confinement. Donc c'est lié à cette gamme, mais aussi à la volonté, comme je disais tout à l'heure, des utilisateurs de revenir à une mobilité individuelle, mais une mobilité durable. Et tout le monde doit travailler sur cette mobilité durable.
Justement, le plan de plusieurs villes de bannir l'automobile des centres-villes sans distinction du mode de propulsion.
Alors,
qu'est-ce que vous en pensez ?
En fait, il faut bien relativiser ce qui se dit à ce niveau-là. C'est que bannir, c'est un grand mot. En général, ce sont des vieux moteurs qui sont bannis des centres-villes. Ce qui est important, et on en a parlé, et la ministre de l'écologie, la nouvelle, en a parlé encore ce matin, c'est qu'il est important de pouvoir définir des zones de faible émission en ville et de se permettre de n'avoir que des véhicules soit à zéro émission, soit avec des moteurs très modernes en centre-ville. Et BMW travaille avec des collectivités, avec des villes justement. On a fait un test il y a 2 ans à Rotterdam et aujourd'hui c'est disponible en France. Lorsque vous achetez un hybride rechargeable du BMW Group, vous basculez automatiquement, donc hybride rechargeable, vous roulez en thermique, vous rentrez dans une zone faible émission, vous basculez automatiquement en zéro émission pour favoriser l'utilisation de la voiture électrique.
Lorsque la ville de Paris interdit ou prévoit d'interdire l'accès à la ville aux véhicules les plus polluants, les vieux diesels notamment, le mode de propulsion est pris en compte. En revanche, lorsqu'on réduit le nombre de voies de circulation, c'est un moyen de réduire la circulation automobile sans tenir compte du fait que ce soit un moteur thermique ou électrique.
Alors, c'est vrai. De toute façon, il faut réguler la circulation en ville. Il faut préserver l'environnement. Et c'est aussi l'objectif des constructeurs. C'est aussi l'objectif du monde automobile. Ce que nous disons simplement, c'est qu'il faut le faire en concertation. Il faut discuter avec les villes. Et je vais prendre un autre exemple. C'est qu'il y a plusieurs années, nous avons lancé à Copenhague des services de mobilité qui sont intégrés dans l'équivalent du Pass Navigo à Copenhague. Vous pouvez rouler dans une solution d'autopartage BMW à Copenhague avec le Pass Navigo. Je crois que l'important, c'est de discuter, d'échanger et de se réunir entre les collectivités, les villes et les constructeurs.
La voiture électrique utilise évidemment des batterie imposante. Le plan franco-allemand pour développer des batteries avec pour objectif de créer, on l'a souvent dit, un Airbus de la batterie.
Alors, il est très important de ramener en Europe la production des cellules. Parce qu'aujourd'hui, il est vrai que la recherche des cellules se fait notamment pour BMW à Munich. Nous avons un centre de compétences, nous avons investi 200 millions d'euros l'année dernière pour ce centre de développement des cellules et de l'intégration des cellules dans les batteries. Maintenant, pour la production, oui, il faut moins dépendre de l'extérieur à l'Europe. Et donc, nous avons, avec un partenaire CATL, décidé de réintégrer la production de cellules de batteries en Allemagne. Et nous avons annoncé, justement ce matin, un partenariat avec Northvolt, avec un producteur suédois, pour, dès 2024, renforcer la production de batteries, de cellules, pardon, durables, avec de l'énergie durable en Suède.
Les consommateurs s'intéressent à la voiture électrique, les investisseurs également, on le voit en bourse. Il y a quelques semaines, Tesla, l'américain, est devenu le premier constructeur automobile mondial en termes de capitalisation boursière. 286 milliards de dollars, c'est 80 milliards de plus que Toyota qui pourtant produit 20 fois plus de véhicules. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Alors, ça m'inspire que Tesla a fait évoluer le monde de l'automobile et le monde des constructeurs. Il est toujours très bien d'avoir de nouveaux concurrents pour pouvoir justement réagir et faire évoluer notre technologie. Mais ça m'inspire aussi le fait que BMW est tout à fait compétitif par rapport à Tesla. En termes de gamme, nous avons une gamme beaucoup plus large, et même en termes de modèle, puisque nous avons présenté il y a deux jours le nouveau BMW iX3, qui est un SAV, un Sport Activity Vehicle, 100% électrique, donc qui fera une concurrence très très forte à Tesla.
Un analyste me disait récemment que ce qui ferait la valeur d'un véhicule dans le futur, ce sera davantage son logiciel que la marque sur la calandre.
En fait, ce qui fait la valeur ou ce qui fera la valeur dans le futur, c'est le véhicule, la marque sur la calandre, le logiciel du véhicule et les services qui entourent ce véhicule. Et très clairement, BMW, depuis 15 ans aujourd'hui, ne se positionne plus comme un pur constructeur automobile, mais nous sommes une tech co et on doit se révolutionner notre approche et se remettre en cause. Donc nous sommes une tech co qui développe des services et des solutions de mobilité premium. Ça passe par le véhicule, mais ça passe par tout ce qui entoure le véhicule, et notamment pour les voitures électrifiées. On ne peut pas vendre une voiture électrique ou une voiture électrifiée sans vendre une borne de recharge ou sans proposer une borne de recharge à l'utilisateur.
Le fait d'être un groupe allemand, est-ce que ça fait toujours recette? Ça a longtemps été synonyme de qualité?
Alors, absolument. Et le fait d'être le groupe BMW fait encore plus recette, et les chiffres de juin l'ont montré.
Un dernier mot, c'est un autre changement qui a été accéléré par la crise sanitaire, c'est le télétravail qui a littéralement explosé. Certains constructeurs comme PSA vont en faire la norme de manière permanente pour tout ce qui n'est pas lié à la production. Vous aussi, vous avez mené ce travail de réflexion.
Oui, tout à fait. Alors nous, on en a fait une norme, heureusement ou malheureusement, peu importe, mais on en a fait une norme depuis 2 ans.
72% de votre personnel en France est en télétravail.
Oui, tout à fait. On a signé un accord collectif avec les représentants du personnel il y a 2 ans sur 2 jours de télétravail par semaine. On pense rester à 2 jours de télétravail par semaine. Pourquoi ? Parce qu'il est important de pouvoir se concentrer à la maison et d'éviter des durées de transport pendant 2 jours à la semaine. Ça paraît correct. En revanche, la collaboration, la transversalité entre les services, le contact entre les collaborateurs et l'esprit d'entreprise reste important. Donc les 3 jours de présence au bureau restent indispensables.
C'est un leurre, le tout télétravail ?
Le tout télétravail, je pense, ne sera pas effectif, ne sera pas efficient et posera un problème de créativité aussi, sans parler de la collaboration des équipes. En fait, le succès d'une entreprise, c'est le succès d'une équipe. Et si l'équipe n'est pas formée, n'est pas présente, l'entreprise risque de souffrir.
Merci beaucoup, Vincent Saliman. Je rappelle que vous êtes président de BMW en France.
Merci Stéphane.
BFM Business, midi, l'heure H. Stéphane Pedrazzi.
Après 3 mois de fermeture, les salles de cinéma ont rouvert leurs portes le 22 juin dernier. Reprise d'activité qui reste fragile, évidemment, toujours menacée par une éventuelle deuxième vague de la pandémie. Mais c'est aussi, et on va en parler, une opportunité unique pour les films français qui ne sont pas en concurrence frontale avec des grosses productions américaines. Les studios américains ont choisi de reporter la sortie de leur blockbuster. Sidonie Dumas, la directrice générale de Gaumont, est avec nous en plateau.
Bonjour.
Bonjour. La réouverture des salles de cinéma depuis pratiquement 4 semaines, quel est le bilan en termes de fréquentation? On précise que Gaumont n'exploite plus de salles de cinéma. Elles ont été revendues à Pathé en 2017. Mais quel est le bilan de cette réouverture pour les films que vous distribuez?
C'est une nouveauté. C'est une renaissance pour le cinéma d'avoir été arrêté. Ça n'est jamais arrivé. Donc, c'est quand même, on redécouvre. C'est très facile d'arrêter un métier. C'est très compliqué de le recommencer. Donc, il est progressif. Les gens, on va dire, il y a 1 million de personnes par semaine, ce qui est beaucoup moins que dans les semaines habituelles, qui sont plutôt autour de 3 en termes de fréquentation. Donc, ça se fait lentement. Heureusement qu'il y a un cinéma français qui est important et donc qui peut permettre d'avoir des nouveautés, parce qu'en effet, les blockbusters américains ne sont pas au rendez-vous. Et donc, tout ça va prendre un peu de temps, mais on est confiant.
Les exploitants de salles de cinéma nous disent que les habitués sont revenus dans les salles. En revanche, c'est plus difficile pour les spectateurs occasionnels.
D'abord, je pense qu'il y a encore une forme de crainte. Ceux qui sont occasionnels se disent, bon, est-ce qu'il y a des films, est-ce qu'il n'y a pas de films? Donc, il y a une manière de communiquer. Je pense que tous les exploitants ont fait un travail énorme sur la réouverture en faisant énormément de publicité à la télévision, ailleurs, en salle, pour inciter le public à revenir en nombre. Mais je pense que ça va, voilà, c'est progressif, ça va prendre du temps, mais on est plutôt, il faut être confiant en fait, il faut y croire.
Vous parliez d'un contexte unique, la sortie des blockbusters américains a été décalée. Pour les exploitants de salles de cinéma, c'est une absence de locomotive pour attirer les spectateurs. Mais pour les films français, c'est une opportunité.
Oui. Il y a deux choses. D'abord, la démarche des films américains n'est pas la même que la nôtre. Les films américains sortent le même jour dans le monde entier. Donc à partir du moment où les États-Unis, pour l'instant, et Los Angeles en particulier, ne peuvent pas ressortir à cause de la pandémie leurs films, ça bloque l'intégralité des autres pays. Et c'est la raison pour laquelle ces films sont décalés. S'il n'y avait pas de reprise de pandémie en ce moment à Los Angeles, on ne serait pas dans ce cas de figure-là. Donc il faut être patient, il faut attendre. Mais de l'autre côté, il y a un cinéma français important. Et pour ceux qui ont choisi la date de cet été, ben, il y a des films à voir.
Oui, absolument. Dans un contexte inédit, la crise sanitaire, est-ce que vous pensez qu'elle va modifier en profondeur les habitudes de consommation pour ceux qui ne sont pas retournés au cinéma? Beaucoup se sont abonnés à Netflix ou à d'autres plateformes. On a vu que les chiffres étaient particulièrement impressionnants. Vous pensez que ça va accélérer ce développement de la VOD?
Le développement de la VOD, c'est sûr, pendant une période où on est enfermé chez soi, il n'y a pas de débat sur le fait que c'est là, c'est disponible et c'est facile d'accès. Maintenant, je pense qu'il y a une vraie habitude de cinéma en France, donc je ne pense pas du tout au fait que ça va s'arrêter. Nous, il y a eu une amélioration des salles de cinéma telle, les gens aiment aller au cinéma en France. Donc je crois que c'est vraiment plus un sujet d'offre et de donner envie aux gens d'y aller. Donc plus il y aura de films qui sortiront, plus les gens auront envie d'y aller. C'est l'appétit vient en mangeant.
Garder une avance technologique, c'est important. Les
c'est
salles de cinéma
essentiel.
Ont énormément progressé.
En fait, tout ce qui est digital, la salle a progressé, le son est incroyable. Donc il y a une qualité qui n'est pas du tout la même que celle dans son salon ou devant sa tablette. Donc moi, je pense que la démarche cinéma et voir des films en salle n'est pas du tout la même que de regarder chez soi.
Cette multiplication des plateformes de VOD, certains producteurs l'aperçoivent comme une menace. Vous, en revanche, vous pensez que c'est une opportunité. Vous disiez, il y a déjà quelques années, que c'était un effet démultiplicateur pour les producteurs français.
Mais je pense qu'on est en train d'y arriver. Nous, on a un pied aux États-Unis, donc en fait, on a eu la possibilité, en fait, peut-être d'avoir une petite marche d'avance sur le regard qu'on pouvait avoir par rapport à ces nouveaux financiers du cinéma. Mais en effet, je pense que c'est une chance de les faire rentrer dans notre processus créatif et financier pour pouvoir continuer à faire des films pour les salles de cinéma.
Comment se développe dans la production de séries aux États-Unis? D'abord, pourquoi aux États-Unis c'est plus facile de s'imposer quand on est un producteur implanté à Hollywood que lorsqu'on est estampillé producteur français?
Alors, en fait, c'est on n'arrive pas... avec arrogance dans un pays comme les États-Unis. Donc on essaye de se dire où est-ce qu'on pourra avoir une place et un point d'entrée. On avait très envie probablement de continuer à faire des films, mais honnêtement, faire des blockbusters à la manière américaine pour une société comme Gaumont, c'est pas envisageable. En revanche, il y a 8-9 ans, quand on a commencé à faire des séries aux États-Unis, il y avait une manière, il y a le French Touch d'abord. Gaumont, c'est pas une société qui vient de s'ouvrir. On a 125 ans. C'est finalement une marque comme Gaumont. Ça suscite beaucoup de curiosité et d'intérêt. Donc, on a réussi, en fait, sans arrogance, à arriver avec les plateformes, parce qu'en fait, on est arrivé dans le processus de Netflix, qui commençait aussi à grandir et à faire de plus en plus de séries. Donc, on a pu leur proposer des choses et on est devenu partenaire sur certains projets.
Vous vendez votre French Touch aux Américains? Vous ne cherchez pas à cacher le fait que vous êtes français?
En aucun cas.
D'accord.
En aucun cas.
C'est un axe de développement qui se reflète dans vos chiffres. Le chiffre d'affaires dans le cinéma est passé de 95 millions d'euros à 78 millions d'euros l'an dernier. Et en parallèle, dans la production télévisuelle, le chiffre d'affaires est passé de 92 à 128 millions. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Gaumont réalise la plus grosse partie de son chiffre d'affaires dans la production télé que dans le cinéma. Cette tendance, elle est amenée à se poursuivre.
Alors en fait, quand on a... c'est une idée stratégique, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est plus dans les salles de cinéma, il fallait qu'on trouve un pendant pour nous permettre de continuer à faire des films. Le financement du cinéma est beaucoup plus à risque que celui de la télévision. La télévision se préfinance et est quelque chose sur lequel on a moins de risques. Il nous permet, en fait, il fallait qu'on ait deux jambes, deux piliers stables, donc la télévision et le cinéma, l'un permettant de financer l'autre, ou l'autre, dans les années difficiles pour la télévision, c'est le cinéma qui pondère, en fait, et donc c'est cet équilibre-là qu'il faut qu'on trouve.
Et vous allez garder ces deux piliers?
Et ces deux piliers, alors le jour où Gaumont ne fera plus de films, je ne serai plus à la tête de cette société.
Les producteurs français sont peu présents sur Netflix, alors que par exemple les producteurs espagnols, eux, font un carton avec des séries comme Casa de Papel, Les Demoiselles du Téléphone, Elite. Comment vous expliquez que les producteurs français soient pratiquement
absents ? Ils sont en train d'arriver. Ils sont pas moins présents. Je pense que en fait la particularité de Netflix, c'est justement d'aller chercher des produits locaux. Et quand ils voient que ça fonctionne dans les régions dans lesquelles sont adressées ces séries, et si elles fonctionnent très bien, dans ces cas-là, ils ouvrent au reste du monde. Et c'est ce qu'on appelle, enfin, ce qu'ils appellent chez eux le local, global et local.
Est-ce qu'il n'y a pas une forme de snobisme, de mépris aussi des producteurs français par rapport à Netflix? Vous n'aviez pas cet état d'esprit au départ.
Non.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les producteurs sont réticents à travailler avec Netflix?
C'est peut-être. C'est pas de mépris, je crois, en aucun cas. Je pense que c'est une méconnaissance et peut-être une petite peur, mais je pense que voilà, on est tous amenés à travailler ensemble et au contraire, non, c'est une chance de les avoir.
Mais est-ce que c'est pas lié au mécanisme de financement du cinéma particulièrement?
Alors en fait, c'est la différence en fait dans ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de différence de financement des films. Nous, on a en France un écosystème qui est peut-être un peu complexe pour le cinéma, mais qui a permis en tous les cas de maintenir une production et de maintenir plus de 200 millions de personnes qui vont au cinéma chaque année.
Alors justement, cet écosystème repose sur ce qu'on appelle la chronologie des médias, c'est-à-dire un calendrier pour l'exploitation d'une œuvre cinématographique en fixant précisément l'ordre et surtout les délais pour la diffusion d'un film sur tel ou tel support. Le patron du CNC souhaite rouvrir le débat sur cette chronologie. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire ?
Si on souhaite faire rentrer les plateformes comme investisseurs dans le cinéma, de fait, il faudra la faire évoluer. Oui.
Netflix souhaite raccourcir ce délai qui est actuellement de 17 mois pour Netflix pour pouvoir mettre en ligne un film sur sa plateforme. Vous comprenez
Bien évidemment. Je trouve que il faut quand on demande à des nouveaux entrants d'investir dans la création cinématographique, il faut leur faire une place et elle peut pas être toute petite ou très très loin dans le temps. Donc de fait, oui, il va falloir y repenser, mais il y a beaucoup d'acteurs autour de la table de la chronologie des médias
et tous ne partagent pas votre point de vue.
Tous ne partagent pas, certainement, mais d'abord, tout le monde défend son précaré. Je pense qu'on est arrivé à une époque où il faudra probablement assouplir tout ça. Maintenant, il faut assouplir tout ça en étant intelligent pour ne pas abîmer les autres.
Parce justement, qu'on a besoin, est-ce que ça ne remet pas en danger les salles de cinéma?
Ah non. Notre seule volonté aujourd'hui, c'est de sauvegarder la place de la salle, quoi qu'il arrive. Comme en fait, c'est parce que si autant, je dirais, les plateformes sont complètement intégrées à l'égard de la création audiovisuelle, si on enlève la salle de cinéma à l'égard des plateformes, le cinéma est mort. Donc ça, il faudra faire très attention à ce qui est, enfin, que la salle de cinéma reste le premier moyen de regarder les films en France.
Donc assouplir, oui, libéraliser complètement. Non. Pas question. Une autre brèche est en train de s'ouvrir. Les chaînes de télévision n'ont pas le droit de diffuser certains films, certains soirs de la semaine. Et M6 vient de proposer pour la première fois un film le samedi soir. Là encore, c'était interdit pour protéger les salles de cinéma. Vous pensez qu'il faut donner davantage de possibilités aux chaînes de télé?
Mais c'est de la même manière qu'il faut apporter plus de souplesse pour faire entrer les plateformes. Il faut aujourd'hui évoluer avec son temps. Je pense que le samedi soir ou le mercredi n'a pas forcément lieu d'être aujourd'hui.
On va parler de la crise sanitaire, évidemment, c'est quelque chose d'important pour les salles de cinéma, mais c'est aussi important en termes de production audiovisuelle. Ça vous concerne directement. Est-ce que vous avez pu reprendre tous vos tournages?
On a pu reprendre. En France, ça a complètement redémarré, que ce soit pour la télévision, pour les séries, pour les films, et on n'a pas eu de cas de maladies sur les plateaux. C'est extrêmement respecté et finalement ça a un coût supplémentaire, mais en termes de gestion, ça se passe plutôt assez bien.
Le surcoût, est-ce que vous allez le prendre à votre charge ou est-ce que les diffuseurs acceptent ?
Pour l'instant, on le prend à notre charge. Ouais.
D'accord. Est-ce que les assurances vous suivent ? Certains producteurs nous disent que c'est extrêmement compliqué.
C'est très compliqué, mais grâce en fait au CNC, ça a été un travail qui a été fait pendant la période de confinement et on a été très épaulés pour essayer de trouver des solutions pour pouvoir... Il n'était pas question un seul instant de redémarrer sans assurance et c'est la clé de voûte de notre métier. Si les productions ne redémarrent pas, rien ne redémarre.
Voilà, le CNC qui a mis une enveloppe, je crois, de 50 millions d'euros pour...
Oui. Enfin, en cas de...
En cas de problème lié au Covid. Le fait que le CNC doive, d'un certain point de vue, se substituer aux assurances, ça ne vous choque pas ?
C'est en fait, je suis pas au stade de ça me choque ou ça me choque pas. Il était important de redémarrer le métier. Les assurances sont là au départ comme elles l'étaient avant. Donc en fait, il n'y a pas de cas de Covid et elles sont là après parce qu'en fait, c'est très technique, mais je vais pas rentrer. Mais les assurances sont présentes aussi.
Non, mais c'est une question qu'on se pose dans d'autres secteurs. Ouais. Les restaurateurs aussi ont beaucoup critiqué l'attitude des assurances dans cette pandémie.
Non, mais c'est vrai que c'est vrai que ça a été très compliqué. Nous, on a essayé de trouver un espèce d'échafaudage. Un peu étonnant, mais qui va fonctionner si jamais ça, c'était le cas. Et a priori, pour le moment, ça fonctionne.
La question des scénarios. Certains producteurs ont modifié leurs scénarios pour les adapter au Covid. Mmh. Il en est question chez vous ?
Et à ce stade, on n'a pas eu besoin de le faire. On a dû modifier certaines scènes qui étaient peut-être trop confinées. Mais à la marge, on n'a pas eu de problème majeur dans l'écriture des histoires qu'on devait tourner par rapport à ça.
Mais c'est quelque chose qui pourrait être envisagé si la pandémie
oui,
revient.
En fait, puisque... on était dans la réflexion sur un film en costume qui devrait se tourner à la fin de l'année pour dire qu'on pourrait intégrer dans les costumes des masques, mais bon. Je ne sais pas, on verra. À chaque jour suffit sa peine.
L'an dernier, Gaumont avait enregistré une perte de 38,5 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 212 millions. Quelles sont vos prévisions pour cette année ? Ça va être difficile, j'imagine. C'est une année exceptionnelle.
Oui, c'est une année compliquée. On a travaillé beaucoup, mais on a une perte d'activité significative pendant la fermeture des salles. Pendant l'arrêt des tournages, a un impact colossal. Quand ça s'arrête, pour nous, ça ne s'arrête pas qu'en France, ça s'arrête aussi aux États-Unis. La saison 6 de Narcos était en tournage au Mexique. Elle a dû s'arrêter, bien évidemment, et elle n'a pas repris pour le moment.
Alors, on le précise, hein, oui, puisque vous faites cette parenthèse, Narcos, ouais. C'est un des gros succès de votre studio.
Oui, et donc, bien évidemment, ça a un impact. Au moment où on se parle, on ne peut pas quantifier encore l'étendue des dégâts. Ce sera, de fait, pas une bonne année.
Le risque de fermeture à nouveau des salles de cinéma, certaines ont annoncé qu'elles refermaient leurs portes, pas forcément en raison de la pandémie, mais par manque de films.
J'espère qu'on n'en arrivera pas à ce stade. C'est vrai que, comme il y a une petite frilosité de sortie de film, nous, on a sorti un film le 8 juillet qui s'appelle Tout simplement Noir, donc qui a rencontré un certain succès. Pas mal de films sont sortis mardi 14 juillet. Et il y a eu un peu une pénurie pour les films pendant le mois d'août. Parce que les Américains ne sont pas là, mais il y a encore d'autres films qui devraient sortir. C'est vrai qu'on va passer un été un peu compliqué, un peu différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir.
Le prochain grand rendez-vous, c'est la rentrée. En cas de reprise de la pandémie, comment est-ce que vous allez gérer ? Si les salles de cinéma devaient refermer leurs portes, est-ce qu'on peut imaginer, comme ça a été le cas, des diffusions directement en VOD ?
Si je ne crois pas, d'après tout ce qu'on dit, que la France sera refermée à nouveau dans son intégralité, mais c'est vrai que si la région parisienne devait être amenée à refermer, ce serait un vrai sujet.
Est-ce qu'on peut en tout cas rentabiliser un film s'il sort directement en VOD ? J'imagine que
mais c'est
une autre
carrière. Il y a une frustration énorme pour ceux qui l'ont fait et qui l'ont imaginé pour la salle et qui le voient uniquement sur un écran plus petit. Donc c'est une démarche qui est très différente. C'est pas l'un contre l'autre, c'est différent.
Parenthèse, vous parliez d'écran plus petit, vous le mentionniez tout à l'heure, le fait que de plus en plus de spectateurs, surtout les jeunes, voient des films, des grosses productions sur des petits écrans, c'est pas un peu frustrant ?
C'est très frustrant, mais je pense que comme tout, il y a une éducation au cinéma. Donc en fait, si vous n'avez pas eu l'habitude d'aller au cinéma jeune. Ce sera difficile de l'apprendre plus tard. Il faut aller au cinéma. C'est vraiment une expérience. D'abord, c'est quand même un endroit formidable où on peut s'immerger complètement. Il y a une émotion démente avec grâce au son, grâce à l'image. Donc, c'est pas au détriment de l'ordinateur, de sa tablette ou autre chose.
On sait que les réalisateurs américains intègrent ce critère maintenant dans la réalisation de leurs films, qui puissent être regardés, y compris sur téléphone portable.
Oui, enfin, je pense que c'est quand même une affaire de taille. Je pense qu'on peut pas avoir le même plaisir sur un même si je pense qu'il y a des choses merveilleuses pour le petit écran. Je peux pas croire que l'émotion soit la même quand on est dans le métro en train de regarder un téléphone portable.
On va revenir à la crise sanitaire, hein, les mesures du gouvernement pour aider les entreprises. Est-ce que les mesures dans le secteur de la culture notamment vous paraissent suffisantes ?
Ça n'est jamais suffisant, d'autant plus que c'est vrai qu'on est un secteur très particulier où tout met du temps à redémarrer. Et qu'en fait, les habitudes s'arrêtent très brusquement et pour les reprendre, c'est un temps infini. Donc c'est vrai que l'été va être compliqué pour les salles de cinéma parce que l'offre est moindre que celle qui pourrait exister. Et du coup, si certaines salles de cinéma sont amenées à refermer parce qu'il n'y a pas suffisamment de fréquentation, ça, c'est vrai que ça va être un sujet.
Tout bêtement, est-ce qu'il n'y a pas une question de foncier ? On a beaucoup entendu les salles de sport. Elles ont été particulièrement actives dans leur communication pendant le confinement en disant qu'elles avaient des surfaces en centre-ville qui étaient relativement conséquentes et qu'elles étaient confrontées à des loyers qui étaient démesurés. C'est vrai aussi pour le cinéma ?
Absolument. C'est le même sujet.
Et est-ce que justement, vous avez engagé des discussions avec les fonciers ?
Bien sûr. En fait, c'est des discussions qui sont en cours, que nous allons reprendre avec la nouvelle ministre de la Culture. Il faut avoir, on a bon espoir que ça puisse aboutir.
Deux derniers points. La ministre de la Culture, vous en parlez, Roselyne Bachelot, sociétaire des grosses têtes, mais à la tête de la culture en France.
Formidable.
Ça a beaucoup été critiqué ?
Bah oui, mais non. Enfin, mon point de vue, c'est que je trouve que c'est un tempérament lumineux et je suis en fait heureuse de voir une femme de tempérament accéder à ce poste. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Roselyne Bachelot.
Une femme à la culture ? Oui. Vous êtes très active pour défendre la visibilité des femmes dans les entreprises.
Mais c'est important.
Ah bien sûr, mais on se fait écho évidemment de ce
combat ici. C'est important, sans être non plus dans l'excès contraire, mais je pense qu'on est capable de faire des belles choses, mais ensemble, hommes et femmes, on est complémentaires, pas les uns contre les autres, donc oui. Bien sûr.
Et le deuxième point, c'est évidemment les réformes. Réforme des retraites, on en a parlé. Il y a toujours la question de la réforme du statut des intermittents. Mm-hmm. C'est crucial pour le cinéma.
Oui. Mais en fait, à l'heure à laquelle on se parle, c'est vrai que tout ça est encore, puisqu'il s'est passé tout ce qui s'est passé avec la pandémie, que nous avons une nouvelle ministre de la Culture, on ne sait pas encore comment tout ça va être arbitré en termes de chronologie dans le temps par rapport à ces nouvelles mesures et ces nouvelles lois. Mmh. Donc on est très impatients de la rencontrer.
Mais en cas de remise en cause du statut des intermittents tel qu'il est actuellement, c'est un danger pour le cinéma ?
C'est un danger, oui, parce que c'est un statut très à part et essentiel pour la survie de ce métier, bien évidemment.
Mais d'autres pays n'ont pas ce statut ?
Oui, mais d'autres pays n'ont pas la chronologie des médias. Et en fait, la France continue à avoir un très beau cinéma. Donc il faut savoir préserver aussi et évoluer d'autres choses.
Et vous y êtes particulièrement attaché. Merci beaucoup, Sidonie Dumas, d'être venue en plateau aujourd'hui de nous parler de ce secteur particulier du cinéma. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Gaumont. Les cinémas, on rappelle, ont ouvert leurs portes le 22 juin avec une fréquentation qui a d'abord surpris. Beaucoup de spectateurs sont revenus dans les salles, même si on en a parlé, il est toujours difficile de faire revenir les spectateurs occasionnels. C'est la fin de cette heure H. On se retrouve demain à partir de midi.